La signature du prêt garanti par l'État et l'espoir de faire avancer les discussions sur l'avenir institutionnel, Manuel Valls a débuté sa nouvelle visite en Nouvelle-Calédonie ce matin. Le budget de la Nouvelle-Calédonie voté hier par les élus du Congrès à l'issue d'une très longue journée marquée notamment par de nombreuses suspensions de séances. 57 cas de leptospirose confirmés au 27 mars, le gouvernement alerte sur une recrudescence des cas, une situation bien supérieure aux moyennes annuelles habituelles. À l'international, ce séisme en Birmanie qui a fait plus de 150 morts et des centaines de blessés, un séisme ressenti jusqu'en Thaïlande notamment. Et puis les sports avec le triathlon Jérémy Brouté ce matin à Bourraquet. C'est Mathieu Zalamacha qui s'est imposé devant Florian Barquette et Jonathan Berger. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et à la une de l'actualité justement ce samedi midi, Manuel Valls qui est de retour sur le territoire. Il est arrivé aux alentours de 8h à Tontouta. C'est le deuxième déplacement du ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie depuis sa nomination en décembre dernier. Manuel Valls doit rester 4 jours et va consacrer quasiment tout son temps à poursuivre avec les délégations politiques le dialogue sur l'avenir institutionnel. Les négociations se dérouleront dès cet après-midi à huis clos au commissariat à 14h. Mais avant ça, le ministre des Outre-mer a signé ce matin le PGE, prêt garanti par l'État. Michael Juneski.
Une signature qui était attendue et qui était conditionnée à l'adoption du budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie par le Congrès. Nous y reviendrons dans un instant. Manuel Valls, donc quelques heures seulement après son arrivée sur le territoire, s'est rendu au gouvernement pour signer la convention qui encadre ce prêt garanti par l'État de 120 milliards de francs avec Alcide Ponga, le président de l'exécutif calédonien. On écoute le ministre des Outre-mer.
Les deux conditions, c'est que le budget soit adopté hier par le Congrès, ça a été le cas, et que cette convention qui autorisait le président Alcide Ponga à la signer, que cette convention soit également adoptée. C'est un élément important parce que ça va permettre au gouvernement de rembourser les avances consenties par l'État à la Banque des Territoires, mais aussi de couvrir les besoins de trésorerie d'ici à fin juin 2025, et puis ensuite de travailler également pour la deuxième partie de l'année. On continuera bien sûr à travailler ensemble, un travail qui a été fait avec le gouvernement, qui a été fait aussi avec mes équipes et avec la Banque des Territoires et avec l'AFD. Il y a un point qui est important, parce qu'il était très attendu par les élus, c'est la compensation de la baisse des recettes fiscales pour ramener ce qu'on appelle l'assiette des dotations aux collectivités à 101,8 milliards de francs pacifiques pour les collectivités. Ça permet de financer aussi le PGE, le chômage partiel, le régime d'assurance maladie, le soutien à l'Enercal, etc. Ça donne évidemment de l'oxygène au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Manuel Valls qui a profité de cette signature de convention pour le prêt de 120 milliards de francs garantis par l'État pour faire de nouvelles annonces sur le plan économique afin d'aider plus particulièrement les Calédoniens touchés par les émeutes de 2024.
Il y avait une mesure de défiscalisation qui était prévue par le budget, par la loi de finances 2025 pour soutenir la reconstruction des bâtiments commerciaux détruits lors des émeutes. La rédaction de l'article qui avait été retenue à la commission mixte paritaire, c'est le moment où le Sénat et l'Assemblée cherchaient un accord, ne permettait pas de donner une pleine efficacité pour les acteurs économiques. Et donc, en accord avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, j'ai annoncé l'extension de ce dispositif aux propriétaires qui réhabilitent leur commerce pour leur propre exploitation, les petits propriétaires, mais aussi lorsque l'exploitation commerciale de ces locaux est confiée à un tiers, par exemple lorsqu'une société loue à des exploitants, je pense bien sûr dans des centres commerciaux. Tous les cas identifiés par les acteurs économiques du territoire pourront être ainsi couverts dès maintenant, dès aujourd'hui, en lien évidemment avec CCI, MEDEF, Chambre des métiers et bien sûr le Haut Commissariat. Et cette annonce que j'ai faite vaut doctrine applicable immédiatement par le ministère des Comptes publics et l'évolution sera régularisée dans le budget, dans la finance de l'année prochaine.
Le ministre des Outre-mer a donc commencé ce nouveau séjour avec cette séquence économique, mais il a également évoqué la suite de son programme et succinctement les priorités qu'il s'est fixées pour ce déplacement.
Assurer la sécurité de tous les Calédoniens, avancer vers un compromis politique, soutenir l'économie calédonienne pour venir aussi en aide à ceux qui souffrent des conséquences de ce qui s'est passé il y a un an conséquences économiques et sociales. Ce sont les trois piliers de cette nouvelle visite, mais qui avait déjà été engagée depuis plusieurs mois. Je suis de nouveau sur le territoire avec le conseiller spécial du Premier ministre Éric Thiers et avec mon équipe pour entamer ces négociations. L'État est au rendez-vous, le gouvernement est au rendez-vous, aussi bien sur les questions de sécurité que sur les questions économiques et financières. Et j'attends de tous une très grande responsabilité dans les jours qui viennent, parce qu'il en va de l'avenir et de la paix civile sur ce territoire. Et je sais pouvoir compter sur le président Alcide Ponga pour m'aider dans cette tâche.
Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, qui a donc procédé ce matin à la signature de la convention du prêt garanti par l'État. Il s'est ensuite entretenu à huis clos avec Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au siège de l'exécutif.
Et la suite du programme du ministre des Outre-mer, c'est donc à 14h. Manuel Valls entrera dans le vif du sujet avec le début des négociations. Demain, dimanche, la journée sera entièrement consacrée aux négociations, interrompues seulement par un déjeuner de travail avec les maires de Nouvelle-Calédonie. Le ministre clôturera sa journée par un échange avec la société civile à l'UNC.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que tous les groupes politiques seront autour de la table cet après-midi pour la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel avec Manuel Valls. Ils sont 13% à penser que ce ne sera pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. L'actualité institutionnelle avec cette journée pour le moins particulière, boulevard Vauban, les élus du Congrès qui ont finalement adopté le budget 2025 de la Nouvelle-Calédonie, Michael.
Une journée particulière en effet, car les élus auront passé de très nombreuses heures à l'extérieur de l'hémicycle lors de suspensions de séances, car réellement débattre autour de ce projet de budget 2025. En début de matinée, les élus ont très rapidement voté les projets de délibération constatant l'affectation de résultats de l'exercice 2024 par anticipation. C'est au moment d'entamer l'examen de la délibération relative à l'affectation de la taxe générale à la consommation pour l'exercice 2025 que les choses se sont compliquées. Une première suspension de séance aura duré près d'1h30. Les travaux ont repris quelques instants, un peu avant 11h30, mais deux autres très longues suspensions ont ensuite marqué l'après-midi d'hier au Congrès. C'est finalement aux alentours de 17h30 que les élus ont réellement entamé l'examen du budget primitif 2025 de la Nouvelle-Calédonie, un budget d'un peu plus de 205 milliards de francs qui inclut une partie des 120 milliards du prêt garanti par l'État. Un budget qui a été adopté avec la voix prépondérante de la présidente Éveil Océanien du Congrès. Les 25 élus des groupes Unis et UCF-LNKS et nationalistes ont voté contre. Les élus Rassemblement, Loyalistes et Calédonie Ensemble ont voté pour. Il y a eu trois abstentions, celle des deux autres élus de l'Éveil Océanien et celle de Yoann Le Courrieux. Écoutez Alcide Ponga, le président du gouvernement.
Ce que je retiens ce soir, c'est que le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté et je crois que c'est le plus important à retenir en cette fin de journée. Je veux saluer l'ensemble des élus qui ont permis à ce que le budget de la Nouvelle-Calédonie soit voté pour les Calédoniens. C'est à un cheveu près que le budget est passé, mais c'est également à un cheveu près le budget que Thierry Santa a proposé.
On le disait, le budget propre de la Nouvelle-Calédonie a donc été adopté avec la voix prépondérante de Veilma Falaeo, la présidente du Congrès qui n'a pas suivi le vote des deux autres élus de l'Éveil océanien.
La Nouvelle-Calédonie est dans une situation extrêmement contrainte. Mes collègues se sont abstenus, mais justement c'est dans cet esprit de responsabilité, de lucidité et après les avoir concertés qu'en tant que présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je devais accompagner ce prêt aujourd'hui parce qu'il en va aussi de la survie de nos collectivités et en fin de compte de la Nouvelle-Calédonie en général. C'est simplement par responsabilité que je l'ai fait.
Dès l'ouverture de la séance publique, hier matin, l'ensemble des élus avaient, dans leurs différentes déclarations, estimé que ce budget 2025 n'était pas parfait, mais que, étant donné la situation économique que traverse la Calédonie, à la suite des émeutes insurrectionnelles débutées en mai 2024, qu'il fallait presque impérativement voter ce budget afin que la Calédonie ne sombre pas dans un véritable chaos économique. À l'issue de la séance, qui s'est terminée un peu avant 20h, Virginie Rufnacht, chef de groupe Rassemblement, saluait l'adoption de ce budget à l'issue d'une journée très compliquée.
Si ce budget n'avait pas été voté, eh bien c'était le chaos pour la Nouvelle-Calédonie. Début avril, les Calédoniens n'avaient plus d'opérateur électrique Enercal et donc plus d'électricité. Fin avril, il n'y avait plus d'hôpitaux parce que le RUAM était en cessation de paiement. Il n'y avait plus, dès demain, de chômage partiel pour les Calédoniens qui sont dans la difficulté. Là, nous étions dans un cyclone budgétaire. Nous avions besoin de tous les marins sur le pont et ça n'a pas été le cas.
La satisfaction également de Gilles Brial pour le groupe loyaliste après une journée très particulière.
Quand on est convoqué à 8h et que toute la journée, ce sont des suspensions de séance pour voir si on peut céder au chantage des indépendantistes et que finalement on commence à étudier les textes à 17h, je trouve que c'est pas le bon exemple pour les Calédoniens qui, dans les moments difficiles que nous traversons aujourd'hui, attendent que les élus se mobilisent. Et là, ce qui se passe aujourd'hui est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas un budget parfait, mais on a un budget qui vient sauver les collectivités calédoniennes, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes.
Bien évidemment, c'est le fameux prêt garanti par l'État, un prêt de 120 milliards de francs et les conditions de son attribution qui ont fait débat. Le groupe Calédonie Ensemble dénonce depuis de nombreux mois les conditions d'attribution de ce prêt et c'est donc un peu à reculons que les élus de ce groupe ont toutefois voté pour ce budget 2025. Écoutez Philippe Dunoyer.
Ça aurait été une catastrophe si ces budgets n'avaient pas été adoptés. Même si, évidemment, beaucoup des conditions qui figurent dans ces budgets nous ne nous vont pas. On est adossé à un prêt très très coûteux pour les Calédoniens. Donc on n'avait pas le choix. Et il reste encore beaucoup à faire. Donc il fallait absolument qu'on évite un crash. Il va falloir continuer d'avancer et donner un peu de visibilité aux Calédoniens.
Les groupes Rassemblement, Loyalistes, Calédonie Ensemble et la présidente du Congrès ont donc voté pour ce budget 2025. En revanche, les deux groupes indépendantistes au Congrès ont voté contre ce texte. Les explications pour le moins surprenantes de Pierre-Chanel Tutugoro pour le groupe UCFLNKS et Nationaliste.
C'est un vote contre pour simplement confirmer pour nous que le budget reste un budget d'exclusion. Dans le même élan des politiques publiques qui sont menées au niveau de la province Sud, il y a comme une unité de commandement qui s'installe. C'est une organisation comme tant d'autres, comme on a vécu à certains moments de l'histoire du pays. Donc c'est ça qu'on voulait faire remarquer et que on avait souhaité que nos populations puissent se retrouver un peu plus dans ce budget.
Si le vote contre ce budget par le groupe UCFLNKS et Nationaliste n'est pas vraiment une surprise, le vote contre du groupe UNI en est plus une. Écoutez Jean-Pierre Jaywe, le chef du groupe UNI au Congrès.
Le vote du budget est un acte éminemment politique. Le déroulement de cette séance démontre bien la difficulté que nous avons entre nous à nous entendre sur la manière de conduire les affaires de notre pays. Nous connaissons les difficultés que le gouvernement a à élaborer le budget. Mais nous avons voulu dire que le gouvernement doit revoir sa copie quant à la manière de conduire la collégialité au niveau du pays. Nous nous rendons compte qu'il y a de la dérive.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson et Lionel Sabot. Rappelons donc que c'est à l'issue d'une très longue journée que les élus du Congrès ont adopté le budget propre, mais aussi les budgets annexes de réversion et de répartition de la Nouvelle-Calédonie. Les deux budgets annexes qui ont été adoptés sans difficulté.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Alifou, c'est le 102.5.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui alerte sur une recrudescence des cas de leptospirose au 27 mars. 57 cas ont été confirmés qui ont nécessité 52 hospitalisations. 41 d'entre elles ont nécessité un placement en service de réanimation et en soins de surveillance continue. Cette situation est bien supérieure aux moyennes annuelles habituelles qui tournent autour des 21 cas. La majorité des patients sont des hommes vivant en zone rurale et exposés au milieu humide ou boueux. Des chasseurs, des pêcheurs ou encore des agriculteurs. Au chapitre culturel maintenant avec cet événement aujourd'hui, la province Nord qui est à l'honneur à la Maison des Artisans de Nouville. Une vingtaine de prestataires touristiques de la province Nord a pris ses quartiers à 8h et jusqu'à 18h pour la 7e édition du salon Échappée Nord. Une nouvelle édition encore plus riche en découvertes et en saveurs. Hébergement, activités, loisirs, bons plans, tous les prestataires touristiques du Nord font le déplacement pour vous faire voyager sans quitter Nouméa. Et puis cet événement aussi à l'ACAPA qui organise depuis 10h son premier loto de l'année. L'occasion de gagner panier de la ménagère, vaisselle, petits électroménagers. L'occasion aussi d'aider l'association calédonienne d'aide aux personnes âgées qui est située au Faubourg Blanchot. Une trentaine de parties sont proposées aux amateurs de loto. 12h15, on marque une première pause dans ce journal avant de faire le tour de l'actualité nationale et internationale.
musiciens du territoire bourrés de talent ont décidé de rendre hommage à l'un des plus grands guitaristes de tous les temps, Carlos Santana. Un mélange unique de rock, de blues, de ritmo latino, avec des titres comme Black Magic Woman, Oye Como Va ou encore Europa. Bref, une soirée inoubliable vous attend vendredi 4 au On The Beach. Vous pouvez réserver sur ticket.nc, 2600 francs pré-vente ou 3000 francs sur place. Ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Tribute to Carlos Santana, le concert vendredi 4 au On The Beach.
Jusqu'au vendredi 4 avril, Tradition Thaïlande vous invite à jouer pour tenter de gagner une carte VIP pour vous offrir des heures de bien-être et de détente. Un cadeau exceptionnel d'une valeur de 150 000 francs. Pour participer, c'est simple. Envoyez chance au 4020 dès maintenant. Plongez dans l'authenticité thaïlandaise au Faubourg Blanchot avec une sélection de 16 massages allant de 20 minutes à 2h30. Un moment unique de détente vous attend chez Tradition Thaïlande. Réservation en ligne, bon cadeau. Tradition Thaïlande vous accueille au 11 route du Port des Pointes et sur Facebook. Téléphone 43 04 20. Alors pour tenter de gagner des heures de bien-être, envoyez chance au 4020. Tirage au sort le vendredi 4 avril à 14h. 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Passionné d'équitation ou simple curieux, rendez-vous le week-end du 29 et 30 mars dans les centres équestres de Nouvelle-Calédonie pour Tous à Poney. Au programme, animation, découverte et sensations pour petits et grands. Trouvez le centre équestre le plus proche et le programme des activités sur www.crank.nc ou sur les réseaux sociaux. Venez vivre la magie du poney.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous êtes sur Radio Rythme Bleu, la suite de votre journal avec Léo Fichou.
La suite du journal, c'est l'actualité en métropole avec ce livre sur le drame de Crépol qui provoque l'indignation des parents de la victime. Il y a 18 mois, le jeune Thomas, 16 ans, a été tué d'un coup de couteau lors d'un bal de Crépol, c'est dans la Drôme. Aujourd'hui, l'instruction de cette affaire est toujours en cours, mais un livre enquête est sorti il y a 10 jours, écrit par 3 journalistes qui suscitent donc la polémique. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Oui, des parents de Thomas que l'on n'avait jamais vraiment entendus. Ils étaient jusque-là restés très discrets, mais cette fois, ils ont tenu à réagir via un communiqué transmis par leur avocat. Et ils expriment leur incompréhension face au contenu du livre, plusieurs passages qu'ils trouvent gênants et qui suscitent leur colère. Selon eux, les auteurs tentent à banaliser le port d'armes, la violence meurtrière, l'omerta et la victimisation des mises en cause. C'est vrai que le livre réfute la thèse du crime raciste anti-blanc avancé au tout début de l'enquête. Les auteurs apportent en fait des nuances, affirmant que les jeunes du quartier de la Monnaie à Romans n'étaient pas venus ce soir-là au bal avec des couteaux pour agresser des gens, mais ils étaient venus et ils avaient des couteaux, ce qui est différent, ont-ils expliqué ces derniers jours sur les plateaux télé. Des nuances qui ont donc choqué les parents de Thomas, ainsi qu'Emmanuel Place, qui préside l'association des victimes de Crépol et qui était présente ce soir-là lors du bal.
Ce qui nous dérange, c'est qu'à chaque fois, il y a une excuse qui est donnée, donc c'est-à-dire que les gens viennent avec des couteaux, mais c'est pour couper leur shit, c'est pas pour tuer des gens. Nous, on y était, on sait ce qui s'est passé. Ce qu'ils racontent, c'est pas ce qu'on a vécu. Ces gens-là sont venus, ils sont venus pour foutre le bazar, ils sont venus tuer du blanc, ils l'ont dit. Maintenant, il faut arrêter de faire croire aux gens que ce n'est pas vrai.
Emmanuel Place, tout comme les parents de Thomas, qui réclament à chacun désormais de s'abstenir de s'exprimer, alors que l'instruction est toujours en cours et qu'aucune date de procès n'a encore été fixée. Respecter le temps judiciaire, c'est respecter Thomas, concluent ses parents, qui n'exclut pas de lancer des poursuites contre les auteurs du livre.
Jean-Luc Boujon pour Europe 1. Au chapitre judiciaire, une décision motivée non pas par des preuves, mais par sa notoriété. Les mots de l'avocat de Kobalade, rappeur aux 3 disques de platine. Il est mis en examen ce matin dans l'enquête sur l'évasion sanglante et la cavale de Mohamed Amra. L'artiste, déjà incarcéré pour d'autres affaires, se trouvait en garde à vue depuis 96 heures. 5 autres personnes sont présentées à un juge. Vladimir Poutine, à l'international, cherche à faire traîner la guerre en Ukraine. C'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky. Et c'est pour ça, selon le président ukrainien, que le chef du Kremlin avance des conditions préalables déroutantes avant toute possibilité de cesser le feu. La dernière en date, l'idée d'une administration transitoire sous l'égide de l'ONU pour remplacer Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine. Et alors que la guerre se poursuit, certaines voix font parler de leurs doutes quant à la poursuite de l'aide de la France à l'Ukraine, alors que les comptes publics sont dans le rouge. Mais ce soutien n'est pas financé par des impôts cachés ou supplémentaires, assure Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux. Et puis toujours dans l'actualité internationale, plus de 150 morts et plus de 700 blessés. Le bilan qui est loin d'être définitif après le séisme de magnitude 7,7 survenu ces dernières heures en Asie du Sud-Est. L'épicentre se trouve dans le centre de la Birmanie, mais la secousse a été ressentie en Chine, au Cambodge ou encore en Thaïlande. Des Calédoniens étaient d'ailleurs présents à Bangkok. Écoutez Loïc, il nous a fait part de son témoignage.
Nous, on était au 3e étage dans un centre commercial. et on a évacué l'immeuble rapidement, comme tout le monde. Et en fait, quand on était presque à la sortie, on a commencé à voir des blocs de ciment, des couches superficielles, des gratte-ciel qui tombaient sur la route, les piscines également, des toits des immeubles qui débordaient et qui tombaient dans la rue. Et là, le plus impressionnant à ce moment-là, c'était de voir la panique, c'était de voir ces milliers de personnes qui se retrouvaient dans les rues pour essayer de s'éloigner le plus possible des gratte-ciel. Donc après, tout était à l'arrêt pendant un bon moment et nous, on a pu regagner notre hôtel qu'en milieu d'après-midi, voire en fin d'après-midi. Et au final, notre hôtel, lui, a été un peu abîmé. Les murs ont été fissurés, les baies vitrées explosées, les bureaux déplacés, les plafonds tombés dans certaines chambres. Donc non, c'est une expérience que l'on n'oubliera pas.
La junte birmane appelle la communauté internationale à l'aide. La France dit prête à apporter son soutien, tout comme l'Union européenne. L'Organisation mondiale de la santé déclenche son système de gestion des urgences. 12h21, dernière pause dans ce journal avant de voir en détail toute l'actualité sportive.
Le marché Broussard revient au marché de Boulary. On remet ça le dimanche 30 mars de 6h à midi. Venez déguster et apprécier les produits du terroir. Boucherie, charcuterie, fruits et légumes, produits de la mer, animation musicale, stand-up, manège et animation pour les petits et les grands. Infoline 96 07 09.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est midi 22, la suite de votre journal avec le sport.
Et à la une de l'actualité sportive du football, la 27e journée de Ligue 1 qui a débuté par une défaite de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de Strasbourg, Mickaël.
4 buts à 2 en faveur des Strasbourgeois qui ont donc fait la course en tête tout en long de la rencontre en inscrivant les deux premières réalisations à l'heure de jeu. Lyon n'a fait que courir après le score pour finalement donc s'incliner. Le RC Strasbourg réalise au passage un très joli coup en grimpant à la 5e place du classement et en dépassant au passage son adversaire du jour, Lyon, dans la course à l'Europe. Les Lyonnais qui retombent à la 6e place. Il restera à suivre encore demain les rencontres Reims-Marseille, Saint-Etienne-PSG et puis Monaco-Nice.
L'actualité du rugby en attendant ce soir le début de la 20e journée du top 14 et la suite du tournoi destination féminin. Il y a du rugby à 7. Les équipes de France sont à Hong Kong pour une nouvelle étape du circuit mondial.
Les féminines sont déjà parvenues à se qualifier pour les quarts de finale avec 2 victoires en match de poule contre la Grande-Bretagne, 22 à 12 et contre les Fidjiennes, 24 à 14. Elles disputeront leur dernier match de poule face aux Irlandaises. À l'inverse, c'est une entrée en matière plus compliquée pour les Français. Ils se sont inclinés face aux Anglais, 12 à 7 puis face aux Espagnols, 19 à 12. Ils retrouveront le Kenya dans leur dernier match de poule.
On parle de tennis aussi avec les demi-finales des Masters 1000 de Miami.
Et le Serbe Novak Djokovic qui a décroché sa place pour la finale en disposant du Bulgare Grigor Dimitrov, une victoire expéditive de l'ancien numéro 1 mondial, 6-2, 6-3. Djoko tentera de décrocher son 100e titre sur le circuit mondial. L'autre rencontre du dernier carré oppose l'Américain Taylor Fritz au Tchèque Jakub Mencik, 54e joueur mondial.
Et puis les sports mécaniques avec le Grand Prix des Amériques en MotoGP ce week-end.
Et Marc Marquez de nouveau aux avant-postes lors des essais libres. Malgré sa chute dans la première séance, l'Espagnol sur Ducati a vite remis les pendules à l'heure. Un temps de plus de 7 dixièmes d'avance sur ses deux premiers poursuivants lors de la deuxième séance, donc devant Fabio Di Gianantonio et Franco Morbidelli. Marc Marquez, meilleur temps de référence. Déception en revanche pour les deux pilotes français, Joan Zarco et Fabio Quartararo. Ils ont manqué le top 10, ils devront donc passer par la Q1 lors des qualifications. Joan Zarco avait pourtant signé le 4e chrono de la première séance avant d'être victime d'une chute dans le deuxième acte. La sprint race, je vous le rappelle, sera à suivre demain dès 7h pour nous sur le circuit d'Austin, juste avant les qualifications. Et le Grand Prix, ce sera lundi à partir de 6h, heure de Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
On passe au sport en Calédonie. Les triathlètes avaient rendez-vous ce matin à Bouloupari.
Oui, le triathlon Jérémy et Broutet de Bourraquet, une épreuve au calendrier de la Ligue qui compte notamment dans l'optique de sélectionner des Calédoniens pour les prochaines échéances régionales. Les concurrents s'affrontaient sur des formats courts, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied pour les meilleurs. À l'arrivée, c'est Mathieu Zalamacha qui est arrivé en tête, 59 minutes 17 secondes d'effort. Il a devancé Florian Barquette, 1h42 secondes. Jonathan Berger complète le podium. Écoutez Serge Le Tocard, le président de la JSVDT, organisateur de ce rendez-vous.
Une grande joie pour notre club, hein, parce que cette course, elle est dédiée à la mémoire de Jérémy Broutet, mais aussi une épreuve de sélection. Hein, donc 87-17 personnes présentes aujourd'hui pour concourir. C'est le niveau d'il y a plus de 5 ans maintenant, donc on est heureux pour le triathlon, on est heureux pour notre club et pour la famille Broutet, bien évidemment. On a une belle victoire de Mathieu Zalamacha aujourd'hui chez les hommes et devant Florian Barquette, qui se sont donné un mano à mano assez super. Donc voilà, et puis avec des petits jeunes qui commencent à pointer le bout de leur nez, on va dire. Donc peut-être les futurs de demain, on verra. L'avenir nous le dira. C'est magnifique, une belle journée de sport, une belle réussite. Voilà.
Et j'ajoute que chez les féminines, c'est Charlotte Robin qui a été la plus rapide en 1h11 minutes 46 secondes d'effort pour 13 petites secondes de mieux donc que Nathalie Viratel. Mélanie Allier complète le podium. Pas moins de 97 concurrents ont été réunis pour cette épreuve qui se déroulait à Bouloupari.
Merci beaucoup Mickaël et merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 13h. À tout à l'heure.